Écuse.
Il est 15h, bonjour et bienvenue sur Radio J, tout de suite le journal de l'information avec Nina Alouche. Bonjour Nina.
Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. Israël prêt à frapper l'Iran sans l'aide des États-Unis. D'après plusieurs sources citées par CBS News, Israël est prêt pour une attaque militaire, anticipant d'éventuelles représailles iraniennes, notamment contre des cibles américaines en Irak. Washington a ordonné l'évacuation de son personnel non essentiel et la formation de comités d'action d'urgence dans les ambassades proches des installations iraniennes. On écoute l'analyse de Raphaël Jérusalemi, ancien officier du renseignement militaire.
Et un accord est signé entre les Américains et les Iraniens, mais c'est un mauvais accord qui met en danger l'État d'Israël. L'État d'Israël fera ce qu'il a à faire. Donc il y a une possibilité que l'Iran soit attaqué et les conséquences seront ce qu'elles seront. Les Américains ont beaucoup d'intérêts au Proche-Orient qui sont en fait assez fragiles, assez facilement atteignables par des forces néfastes. Et donc il y a peut-être ici, peut-être, je le dis, une part de bluff pour impressionner les Iraniens à la veille du dernier round des négociations sur le nucléaire.
Raphaël Jérusalemi, ancien officier du renseignement militaire sur I24 News. Malgré ces tensions croissantes, Steve Witkoff prévoit de poursuivre un sixième cycle de négociations indirectes avec Téhéran sur le programme nucléaire iranien. De son côté, Téhéran annonce avoir un plan de riposte immédiate en cas de frappe israélienne sur ses sites nucléaires. Selon le New York Times, l'Iran prépare une riposte immédiate en cas d'attaque israélienne comparable à celle d'octobre 2024 quand près de 200 missiles avaient visé Israël. Annonce qui inquiète les autorités politiques occidentales qui appellent à évacuer leur personnel diplomatique au Moyen-Orient. On écoute l'analyse de notre correspondant à Jérusalem, Olivier Granilic.
La Grande-Bretagne a émis une alerte inhabituelle pour les navires dans le golfe Persique, craignant une escalade militaire. Et puis parallèlement, les États-Unis ont commencé à évacuer aussi une partie de leur personnel diplomatique en Irak, à Bahreïn et au Koweït, en raison donc de risques sécuritaires qui sont accrus du côté iranien. Le président a affirmé que son pays ne céderait pas à la pression occidentale et qu'il poursuivrait ses recherches nucléaires à des fins scientifiques, tout en appelant à l'unité nationale face aux ennemis extérieurs. Je cite bien entendu le président iranien.
Olivier Granilic, notre correspondant à Jérusalem. Le ministre roumanais des Affaires étrangères a confirmé sur X que le sixième cycle de négociations se tiendra dimanche 15 juin à Mascate. Par ailleurs, la IEA a officiellement déclaré que l'Iran viole ses obligations de surveillance nucléaire, marquant la première résolution de ce type depuis 20 ans. Accusé de ne pas coopérer sur des sites nucléaires non déclarés, Téhéran est sommé de s'expliquer sans délai sur la présence de traces radioactives. Suite à la dissolution de la Knesset, le ministre orthodoxe Itzhak Goldenknopf présente sa démission au gouvernement. Un accord a été trouvé sur les grandes lignes, une future loi sur la conscription des ultra-orthodoxes, incluant des sanctions immédiates, retrait du permis de conduire et interdiction de quitter le pays dès le premier jour d'exemption, avec d'autres mesures financières différées d'un an si les quotas ne sont pas atteints. Suite à cette décision, le ministre orthodoxe a donc présenté sa démission au gouvernement. Six activistes de la flottille Madeleine, dont la députée européenne Rima Hassan, sont en route vers l'aéroport Ben Gurion pour être expulsés d'Israël. Ils ont été arrêtés illégalement en eau internationale et vont quitter le pays après plus de 72 heures de détention. Les militants sont de nationalité française, allemande, turque, néerlandaise et brésilienne. L'ambassadeur américain en Israël, Huckabee, rencontre les ministres israéliens visés par des sanctions et dénonce une hypocrisie scandaleuse. L'ambassadeur Mike Huckabee a rencontré cet après-midi le ministre israélien Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir, récemment sanctionnés par le Royaume-Uni, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et la Norvège, qui leur reprochent d'inciter à la violence contre les Palestiniens en Judée-Samarie et de compromettre un futur État palestinien. Il dénonce des sanctions comme une hypocrisie scandaleuse et a salué les deux ministres de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Plus de 200 manifestants pro-palestiniens ont été arrêtés par les autorités égyptiennes alors qu'ils se dirigeaient vers la bande de Gaza depuis le Caire. Cette vague d'interpellation survient alors qu'Israël avait exhorté l'Égypte hier à empêcher toute provocation pro-palestinienne sur son sol. La police affirme qu'il n'y a eu aucun survivant du Boeing 787 Dreamliner d'Air India transportant environ 242 passagers et membres d'équipage. L'avion s'est écrasé aujourd'hui dans l'état de Gujarat en Inde alors qu'il se dirigeait vers Londres. Londres. L'appareil a percuté une zone civile peu après son décollage. Selon la police locale, l'incident s'est produit dans une zone résidentielle quelques minutes seulement après le décollage. Le président français Emmanuel Macron a répondu positivement à la lettre du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. « J'ai reçu une lettre d'espoir, de courage et de clarté », a déclaré Emmanuel Macron. Dans cette lettre, également adressée au prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman et d'autres dirigeants mondiaux, Abbas appelle à un cessez-le-feu à Gaza et à la démilitarisation du Hamas.
Et merci pour ce journal, Nina Alouche. On vous retrouve à 15h30 pour le rappel des titres. En attendant une petite pause et on démarre notre émission avec Raphaël Duchemin sur Radio J.
Radio J.
Bonjour, c'est Steve Nadjar. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis soirs à 21h sur Radio J pour Géopolitique Le Mag. Avec mes invités et chroniqueurs, nous commenterons l'actualité internationale pour vous aider à mieux comprendre les enjeux d'un monde qui bouge, au Moyen-Orient, et pas seulement. Géopolitique Le Mag, c'est tous les jeudis à 21h sur Radio J.
Radio J.
Bonjour, c'est Ilana Ferradian. Vous connaissez ma voix depuis une dizaine d'années maintenant, mais pas forcément mon histoire. Cette histoire, j'ai décidé de vous la raconter sans filtre, à travers mon livre « 7 ans à t'attendre, journal de bord d'une PMA ». Je m'y livre sans tabou, sur mon infertilité, à travers les nombreuses suives que j'ai dû endurer pour avoir ma fille. Parce que c'est un sujet qui touche énormément de femmes et de couples dans la communauté. J'espère vous donner de la force et de l'espoir. « 7 ans à t'attendre, journal de bord d'une PMA », aux éditions David Reynarque.
Les cultures juives, ça se défend. Et les CUJ aussi. Soutenir les CUJ, c'est transmettre la richesse des cultures juives, lutter contre l'ignorance et renforcer une vie juive libre, ouverte et accueillante. Les 15 et 16 juin, on compte sur vous pour la première grande campagne d'appel aux dons de les CUJ.
Et votre impact est doublé.
Oui, oui, chaque don compte double.
Double.
Alors rendez-vous les 15 et 16 juin sur allodon.fr/ecuj. Facile, allodon.fr/ecuj.
Radio J.
Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J.
Radio J.
Radio J. 15h-16h. Cyrielle Sarah Cohen. Du lundi au jeudi.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravie de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invité, Voix de Radio. Vous l'avez entendu sur RMC, vous l'avez entendu sur Europe 1 ou vu sur BFM Business dans plusieurs émissions dédiées aux entreprises françaises. Aujourd'hui et en avant-première, la journaliste Raphaël Duchemin nous présente son ouvrage Toulon, de l'ombre à la lumière, le Var de 39 à 45, un livre de témoignages et de récits de résistants varois sous l'occupation nazie, un livre disponible à compter de ce lundi 16 juin et publié aux éditions Sylvana Éditorial, l'occasion comme toujours de découvrir notre invité et ce, en direct sur Radio J.
15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen.
Radio J. Bonjour Raphaël Duchemin.
Bonjour Cyrielle, bonjour
à tous. Je suis très heureuse de vous recevoir à l'antenne. On est en direct et je n'ai pas pour l'habitude de mentir, donc on va tout dire. La dernière fois que j'ai pu travailler pour une radio et pour un présentateur ou une présentatrice, c'était pour vous. Donc je suis très émue et très heureuse que vous soyez une de mes invitées aujourd'hui et que vous ayez accepté de l'être.
L'émotion est partagée, je crois que peut-être que ça s'entend, en tout cas si on nous voit, ça se voit.
Merci beaucoup d'être mon invitée alors aujourd'hui, Raphaël Duchemin, pour bien sûr découvrir votre actualité, mais aussi, puisque c'est l'ADN de cette émission, tenter de savoir un peu qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Pour ce faire, je vous demanderai trois mots pour vous décrire, vous diriez lesquels ?
Je dirais franche, je dirais varoise, et je dirais optimiste.
Optimiste. Eh bien, on va voir si ça colle avec vous tout au long de cette émission, où l'on démarre par le début, toujours le début. Raphaël Duchemin, vous êtes né un 2 décembre dans les années 70 à Toulon. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi ?
J'ai grandi dans une famille pieds noirs où il faisait bon vivre, où les tablées étaient longues, où on mangeait italien, où on était entre entre le couscous et la pasta, avec mon père et ma mère. Je suis enfant unique et j'ai toujours eu cette famille italienne pieds noirs qui était là pour m'entourer. C'est une enfance heureuse avec mes grands-parents qui étaient là, qui étaient présents aussi, qui se sont beaucoup occupés de moi. Jamais très loin de la Méditerranée. Elle était toujours en toile de fond, à côté du port de Toulon. Et mon grand-père pêcheur, mon oncle pêcheur, ma grand-mère au foyer, ma maman qui a travaillé puis qui après s'est occupée de moi, mon papa artisan peintre. Voilà, c'est une famille assez simple, mais qui m'a toujours donné des valeurs et qui m'a toujours inculqué les choses simples de la vie, les choses essentielles.
Quel genre de Raphaël vous êtes quand vous êtes petite? Quel genre de petite fille? Et quelles étaient vos passions?
J'étais une petite fille assez ouverte. J'étais fille unique, donc j'avais besoin d'avoir du monde autour de moi. J'avais besoin d'avoir d'autres enfants. J'aimais inviter à la maison. Mais j'avais des grands moments de solitude où je m'enfermais dans ma chambre, où je pouvais avoir notamment à l'adolescence, des grands moments de mélancolie. J'écrivais énormément de poèmes. J'aimais voilà me retrouver toute seule, lire énormément pour essayer de comprendre le monde qui m'entourait, parce que depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours voulu être journaliste. C'était pour moi quand j'ouvrais le journal, je me disais c'est ça que je veux faire, parce que c'est une manière d'expliquer aux gens ce qu'ils ne comprennent pas, d'être un peu une sorte d'interprète, une sorte de traductrice, donner des clés comme ça de compréhension et de lecture aux gens. Je trouvais que c'était un beau métier.
Et c'est le métier que vous allez choisir, parce que vous allez faire des études à l'École supérieure du journalisme de Paris. Vous allez obtenir votre diplôme à 22 ans. Vous commencez alors votre parcours dans les stations locales de Radio France, notamment à Toulon. Racontez-nous ces premiers pas, ces débuts avec le micro.
Alors les premiers pas, c'est effectivement à Radio France, et je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais à l'école de journalisme, la dernière année, le professeur était celui qui sélectionnait pour les castings à Radio France. C'était un monsieur qui s'appelle Jacques Thévenin, qui est bien connu pour avoir été le grand sélectionneur des journalistes des radios bleues ici aujourd'hui. Quand il m'a sélectionné, il m'a dit « Du chemin, tu es une emmerdeuse. Je t'envoie en Corse pour voir ce que tu as dans le ventre. » Eh ben, je suis partie de moi. Et quelques années plus tard, j'ai été embauchée en Corse. Donc voilà, c'est là que j'ai fait mes débuts et où j'ai fait aussi mes premières armes, sans mauvais jeu de mots, parce que commencer sa carrière de jeune journaliste en Corse, au moment de l'assassinat du préfet Erignac, en pleine vague nationaliste, attentat, nuit bleue, c'était compliqué.
C'était compliqué, mais vous vous en êtes sorti. Par la suite, vous avez rejoint France Info en Nation.
Oui.
Donc là, quand on en arrive là, on est très content. Quand on passe du local à la Natio, au service politique, on vous retrouve à la présentation de la matinale entre 2007 et 2013 avec l'interview politique que vous campez pendant 7 ans, le journal de 8 heures. Suite à cela, vous reprenez la tranche midi 14 heures, et cette tranche, on va voir qu'elle va être importante. Vous partez ensuite pour RMC en tant que rédactrice en chef du matin. Vous présentez encore une fois les journaux de 6 heures à 9 heures dans Bourdin Direct, ce qui vous permet de devenir aussi joker de Jean-Jacques Bourdin sur RMC et BFM TV le matin. Quel souvenir vous gardez de cette dernière période, ou peut-être de cette grande période de votre vie, de matinalière?
C'est une période importante, et vous avez raison de le souligner, Cyrielle, parce que quand j'attaque à France Info le midi 14h, il va y avoir les attentats de Charlie. Et pour moi, c'est un tournant. C'est un tournant parce que je suis maman depuis peu. Et je comprends qu'il y a un avant et un après. Oui. Les choses vont plus être pareilles. Je vais plus pouvoir exercer mon métier de la même manière. Et ça va me poursuivre, en fait. Hein. Les années suivantes, les années vont être difficiles. On est effectivement à RMC, où on a de l'antenne en direct, où on a des gens qui témoignent, où on a les attentats de Nice, où il y a des choses comme ça qui s'enchaînent. Et où je prends cette violence, où j'ai du mal, en fait, à m'en extraire. Oui. Et je fais un peu l'éponge, et je vais garder en fait toute cette douleur en moi, et à un moment donné j'ai envie de passer à autre chose.
C'est ce qu'on appelle le hard news, le tout info, un moment donné où l'information, on a la sensation qu'elle ne s'arrête jamais. On arrive au travail, elle est là, on rentre chez nous, on allume la télé, elle nous poursuit. C'est vrai qu'on a souvent tendance à poser cette question aux journalistes qui font ces métiers encore aujourd'hui dans le quotidien. Comment vous vous préservez, comment vous vous prémunissez de toute cette information très dure? Aujourd'hui, avec le recul, Raphaël Duchemin, quand vous regardez les chaînes d'information, déjà, les toutes infos, quel regard vous en avez peut-être par rapport à votre époque? Est-ce que vous êtes contente de les avoir quittées?
Je suis contente parce que je suis passée à autre chose et que c'est bien aussi de laisser la place à d'autres. Et puis je pense que je l'écrivais ce matin sur un réseau social en réaction à des propos d'un autre journaliste. Je disais... J'ai l'impression qu'on vit dans un monde de l'infobésité, c'est un mot qui est beaucoup employé, mais qu'on prend plus le temps de faire la part des choses, on prend plus le temps d'aller au fond des dossiers, on prend plus le temps de se rappeler de l'histoire, de comprendre les choses, de savoir d'où elles viennent et pourquoi elles arrivent. Et j'aimerais que on réapprenne aux jeunes à mettre un petit peu de distance avec l'information, à comprendre ce qu'ils lisent et pas simplement à prendre ce qui est écrit sous leurs yeux pour argent comptant.
À prendre de la hauteur, est-ce que vous trouvez que les réseaux sociaux sont un moyen de faire cela ou au contraire, ça peut être aussi un piège? Puisque là, à l'Assemblée nationale, en ce moment, il y a des influenceurs qui sont auditionnés par une commission d'enquête, par exemple.
Je pense que c'est les deux, vous avez raison. Il y a du bon, il y a du moins bon. On trouve de très bonnes choses sur les réseaux sociaux. On trouve des enseignants qui aident les jeunes à comprendre des cours qu'ils ne comprennent pas. Mais on trouve aussi du très mauvais. Je pense qu'il faut mieux encadrer. Je pense que les réseaux sociaux ont leur responsabilité et qu'il faut, qu'ils en prennent conscience. On ne peut pas dire et faire n'importe quoi et cet espace-là est peut-être un espace de liberté, mais comme les autres, il faut l'encadrer.
Vous avez cité le mot liberté et pour moi il est très intéressant parce que vous collaborez à des médias qui sont nécessaires aujourd'hui pour les femmes. Je pense à celui qui s'intitule Visible Média, que j'ai trouvé extrêmement juste avec une façon de parler des femmes, de les rendre visibles certes, mais en tout cas sur le conflit aujourd'hui qui intéresse énormément nos auditeurs, le conflit israélo-palestinien, j'ai trouvé les postes très très mesurés sur la condition des femmes de part et d'autre. Aussi Marcel Le Média, est-ce que vous voulez nous parler de ces deux médias-là?
Je vous parlerai effectivement de ces deux médias parce que je pense qu'il y a toute une nouvelle génération de médias qui est en train d'émerger et que c'est important que ces médias prennent leur place. On a des médias, des grands médias, des médias mainstream, hein, comme on dit aujourd'hui, qui dominent finalement l'actualité. Mais on voit qu'entre ces médias et des médias plus locaux, il y a un chemin pour autre chose, pour écrire d'autres choses, d'autres manières de raconter l'actualité. Ça veut dire aussi, et c'est important, qu'il y a des gens qui ne se retrouvent pas dans certains médias, ou dans ce qu'ils entendent, ou dans ce qu'ils voient, ou dans ce qu'ils lisent. Et il faut le prendre en considération. Marcel, c'est une porte ouverte sur des solutions. C'est un petit peu ce qu'on faisait à une certaine époque, Cyrielle, quand on travaillait à l'émergence d'entreprises qui sont porteuses d'un autre message, qui ne veulent pas simplement raconter la vie qui va mal, mais montrer que quand il y a quelque chose qui va mal en face, il y a des gens qui travaillent aux solutions.
Les solutions, le local, ce sont les deux mots que vous avez employés. 2 ans après RMC, vous devenez journaliste, présentatrice et rédactrice en chef à Europe 1. Du petit matin, notamment Europe 1 Bonjour, diffusé de 5h à 7h pour avoir également travaillé sur cette édition. Je sais très bien que c'est le local qui est vraiment mis en lumière de bout en bout. Suivi de la tranche midi et demi, 14h, puis midi, 14h, midi 30 et puis 14h, où vous installer une émission très importante sur cette antenne, La France Bouge. D'abord, avant de rentrer dans le détail ensemble, comment vous avez eu l'idée de cette émission-là?
Alors l'idée, je vais dire la vérité, de toute façon je ne sais pas faire autrement. L'idée, elle m'a été soufflée par Laurent Guimier, qui venait d'arriver à la direction d'Europe 1. Et qui m'a dit, écoute, tu vas être Pierre Bellemare des temps modernes. Je dis, mais c'est-à-dire, attends, faut que je m'achète une moustache. Il m'a dit, non, tu vas faire, vous êtes formidable, mes versions année 2000-2020. Bon, donc j'ai dit, il faut que je trouve des gens formidables. Bah oui, c'est ça, tu as 2 heures, ta carte blanche. Et je me suis dit, qui sont les gens formidables qu'on ne connaît pas et qu'il faut mettre en lumière? J'ai pensé aux entrepreneurs, parce que dans le petit matin, j'avais comme ça une petite chronique sur les entrepreneurs, les fameux gens qui se lèvent tôt. Et je me dis, ben oui, il y a plein d'idées formidables, il faut partager ça. Et j'ai commencé à co-construire cette émission avec l'équipe. Et je me suis dit, ben voilà, on va le tenter. Et puis ça a marché, parce que je pense que ça répondait aussi à un besoin d'entendre d'autres récits et d'entendre qu'il pouvait y avoir des choses positives dans un monde qui va pas toujours très bien.
Cette émission existe toujours. Elle est présentée désormais à 21h par Elisabeth Assayac. C'est un bébé qui continue de vivre, j'ai tendance à dire, et qui met en lumière, c'est important de le préciser, des entreprises, mais françaises. Voilà, on est dans du made in France, des entreprises qui font bouger la France. C'est comme cela que vous en parliez à l'antenne, montrer une autre facette aussi de l'actualité. C'était la volonté de cette émission, avec ces travailleurs de l'ombre qui inventaient, qui innovaient, qui sont toujours à l'initiative partout en France de beaucoup d'idées. Et vous le savez, Raphaël Duchemin, on va le rappeler à nos auditeurs, on n'a jamais vu la France autant bouger que pendant le Covid. Nous étions ensemble et c'était fou.
C'était fou parce que on avait installé nos studios chacune chez nous. Oui. On travaillait de la maison et on avait comme ça des tonnes et des tonnes d'initiatives qui nous arrivaient sur nos écrans. On prenait les gens en direct au téléphone, qui avait l'idée de fabriquer un masque, qui inventait un spray, se disait on va penser aux poignées de porte pour pouvoir les désinfecter. Enfin, il y avait une vraie solidarité, et dans ces moments assez douloureux finalement, ça donnait de l'espoir. Et combien de messages on a reçus à ce moment-là pour nous dire waouh, merci, ça parce que dans cet océan de mauvaises nouvelles, ça fait du bien de vous entendre.
Vous avez quitté Europe 1 depuis, mais vous n'avez jamais abandonné les entreprises françaises à qui vous avez tendu le micro, avec notamment un podcast, Nation Entreprenante. Racontez-nous ce projet.
Nation Entreprenante, c'était peut-être une suite logique pour moi, parce que quand j'ai rouvert mes réseaux sociaux quelques mois après mon départ d'Europe 1, j'avais plein de messages. J'avais plein de messages d'entrepreneurs qui me disaient « Eh oh, vous êtes où ? On a besoin de vous là, faut pas nous lâcher !» Donc je me suis dit « Qu'est-ce que je peux faire ? Après tout, je ne sais faire que ça. » Donc j'ai recommencé à faire une émission pour essayer de les mettre en valeur, et puis continuer finalement ce travail qui avait été entrepris de manière différente, pour essayer de donner la parole sur d'autres sujets, sur d'autres thématiques, avec d'autres personnes, sur les réseaux cette fois, pas sur une antenne. Et puis ça m'a ouvert en fait le champ des possibles.
Et oui, parce que dans cette continuité de valorisation des entreprises et de l'économie, on vous retrouvait jusqu'à il n'y a pas si longtemps sur BFM Paris, jusqu'à ce que la chaîne cesse d'émettre il y a quelques semaines, et vous êtes toujours sur BFM Business.
Sur BFM Business régulièrement, et puis sur BFM Marseille Provence, où j'ai le plaisir d'animer une émission hebdomadaire qui s'appelle C'est la Tech Bébé. Voilà, un petit
génial
clin d'œil à Marseille, où je parle d'innovation. Je parle de tech avec la French Tech et avec les entrepreneurs du territoire. Et on a la chance et le plaisir dans quelques jours de faire les premiers awards de C'est la Tech Bébé, puisque la première année on faisait 90 000 vues, ce qui est beaucoup pour une télé locale. Et cette année, on fait un peu plus de 200 000 vues par semaine sur cette émission. Donc, on en est très fiers.
Ça me rappelle des jolis souvenirs. En attendant, Raphaël Duchemin, vous venez nous voir pour un ouvrage tout à fait singulier dans votre parcours, si je puis me permettre, intitulé « Toulon, de l'ombre à la lumière, le Var de 39 à 45 ». C'est un livre de témoignages et de récits de résistants varois sous l'occupation nazie, 176 pages, disponible à compter de ce lundi, parce que nous sommes en avant-première aujourd'hui avec vous. Vous publiez aux éditions Sylvana Éditorial. Tout d'abord, comment vous avez eu cette idée, ou comment ce projet d'ouvrage est arrivé à vous ?
Alors ce projet, il est né en fait l'année dernière parce que pour les 80 ans du débarquement de Provence sur BFM Toulon Var, on a eu l'idée avec le département du Var de faire un long métrage. 26 minutes pour raconter justement le débarquement de Provence qui est bien souvent absent des livres d'histoire ou en tout cas qui est ce qu'on appelle, je sais que ça ne plaît pas aux Varois, mais ce qu'on appelle le débarquement oublié parce que ce débarquement il aurait dû se faire en même temps que le débarquement de Normandie et puis pour des raisons logistiques il a été repoussé. Donc c'est vrai qu'on parle du débarquement de Normandie beaucoup moins du débarquement de Provence et donc j'ai fait ce 26 minutes pour raconter à hauteur d'homme, parce que je crois que on ne comprend jamais aussi bien l'histoire que quand elle est racontée par la petite histoire. Mmh. Pour raconter à hauteur d'homme ce que ça avait été et quels étaient les souvenirs qui avaient été transmis dans les familles. Et c'est vrai que ce 26 minutes, il a marqué. Et derrière, on s'est dit, quand je dis on, c'est le président du département du Var s'est dit, ce serait bien de faire un livre. Et ça lui a semblé assez logique de me demander de le faire. Alors j'avais un challenge parce que cette demande, elle est arrivée au mois d'octobre. Et le président voulait absolument avoir ce livre entre les mains pour le 8 mai. Donc il a son exemplaire.
Au moins, il a de la chance. Moi, j'ai pas assez de chance.
Son exemplaire, mais voilà, on a tout fait pour boucler la totalité des témoignages avant. Ça n'a pas été une mince affaire, mais par contre, oui, quand vous commencez à tirer le fil comme ça, c'est toute la pelote qui vient.
C'est ça, c'est exactement ce que j'allais vous demander. Une quarantaine de témoignages, 42 pour être relativement précise. Un ouvrage composé de nombreuses photos connues ou inédites, avec des illustrations aussi très jolies, des voix qui racontent leur histoire ou celle de leur famille. D'une part, comment vous les avez recensées et comment ces voix longtemps muettes sont arrivées à vous. Un premier témoignage suivi d'un autre. Est-ce que certains, vous avez dû un petit peu plus y aller ?
Alors, j'avais déjà une base avec les témoignages que j'avais recueillis l'année dernière et je n'en avais exploité pour la télévision finalement qu'une infime partie. J'en ai recyclé une partie et puis je me suis dit, je vais commencer à les taper aux portes. Je connais les associations, je vais leur demander qui accepterait de témoigner. Et en fait, de fil en aiguille, quand vous interrogez une personne, elle vous dit « Ah mais... est-ce que vous avez pensé à aller voir dans tel village, il y a telle personne ?» Et donc, vous remontez comme ça la carte du Var et la carte de l'histoire, de famille en famille, et puis chacun vient apporter finalement sa pièce du puzzle. Et vous faisiez référence aux illustrations, Cyrielle. Il y a l'histoire à l'intérieur de la famille de Jean-Marie Cusin qui signe ces illustrations. Oui. Jean-Marie... a choisi parmi les témoignages que j'avais récoltés une quinzaine de témoignages et il s'en est inspiré pour faire des illustrations. Donc ce sont vraiment des illustrations inédites et je voudrais aussi, parce que je ne veux pas l'oublier et qu'il est important, faire un coup de chapeau à Michel Delannoy qui est l'historien qui lui, je suis pas historienne, hein, je ne sais que recueillir la parole des gens, qui lui a fait ce travail d'histoire et c'était essentiel pour replacer les choses dans le contexte.
Essentiel parce qu'il y a des événements et des périodes clés qui sont abordées. On progresse au fur et à mesure de l'histoire dans cet ouvrage. C'est pour ça que c'est extrêmement bien fait. Entrecoupé de ces témoignages, on part de la mobilisation et la défaite française jusqu'à la conférence de Yalta et la place de la France parmi les vainqueurs. C'est dire si on retrace bien l'histoire et tout ce qui s'y passe. Bien évidemment, on se doute qu'il y a des témoignages qui ont été peut-être plus forts que d'autres pour vous à recueillir. Est-ce que vous voudriez nous en donner quelques-uns, Raphaël Duchemin ?
C'est difficile d'en choisir quelques-uns. J'ai été très émue, je dois dire, par le témoignage de Fabienne Guénoun.
Oui.
Fabienne, comment je vais expliquer ce que Fabienne m'a dit, parce que vous voyez j'ai du mal à en parler tellement j'ai été touchée. Fabienne, elle est arrivée à Toulon un petit peu par hasard.
Par amour.
Elle y est arrivée par amour, sans véritablement savoir qu'il y avait une part de son histoire qui était là. Elle en avait vaguement entendu parler, mais elle ne se doutait pas de ce qu'elle allait découvrir. En fait, quelques années auparavant, elle était partie en Israël avec une amie. pas pour faire du tourisme, mais un peu parce que voilà, elle accompagnait un groupe, hein, pour être tout à fait honnête. Et elle s'est retrouvée devant le mémorial à regarder les noms qui étaient inscrits sur le mur. Et elle a vu le sien. Elle s'est dit, tiens, c'est bizarre, Guénoun. Il y en a pas énormément des Guénoun, mais ce serait pas quelqu'un de ma famille. Et quand elle est rentrée chez elle, alors à l'époque, il y avait pas les portables. Hein, elle a demandé à sa grand-mère qui lui a dit, oui, non, mais c'est rien du tout. Et puis petit à petit, je vais peut-être pas raconter tout en détail, mais petit à petit, elle a remonté le fil avec son père, et ils se sont aperçus qu'il y avait des cousins qui avaient été à Toulon, qui avaient eu des immeubles entiers et qui avaient été déportés, qui n'en sont évidemment pas revenus. Et aujourd'hui, elle a décidé de poser ce qu'on appelle les pavés, donc le premier pavé à Toulon, devant l'immeuble, avec l'accord des nouveaux propriétaires, pour que cette mémoire-là, elle ne disparaisse pas.
Et ce qui est très beau dans son histoire également, c'est qu'elle est dans l'immobilier, donc ça, il faut quand même le souligner, qu'aujourd'hui, quand elle vend ou qu'elle fait en sorte de savoir l'histoire de cet immeuble quand il y a une potentielle démolition, donc c'est aussi beau de voir que c'est un chemin de vie qui est raconté au travers de son histoire. Vous restez avec nous, on continue cette émission avec la journaliste Raphaël Duchemin qui nous présente son ouvrage Toulon, de l'ombre à la lumière, le Var, de 39 à 45 aux éditions Sylvana Éditorial. Dans un instant, mes chroniqueurs nous rejoignent sur Radio J, que des hommes aujourd'hui pour nous servir, mais tout de suite, c'est le rappel des titres.
Radio J. Cyrielle Sarah Cohen.
Passé d'une minute sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Nina Alouche. Bonjour Nina.
Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Israël prêt à frapper l'Iran sans l'aide des États-Unis. D'après plusieurs sources citées par CBS News, Israël est prêt pour une attaque militaire, anticipant d'éventuelles représailles iraniennes, notamment contre les cibles américaines en Irak. De son côté, Téhéran annonce avoir un plan de riposte immédiate en cas de frappe israélienne sur ses sites nucléaires. Selon le New York Times, l'Iran prépare une riposte immédiate en cas d'attaque israélienne, comparable à celle d'octobre 2024, quand près de 200 missiles avaient visé Israël. La Fondation humanitaire de Gaza, soutenue par les États-Unis, accuse le Hamas d'avoir attaqué mercredi soir un bus transportant ses employés, tuant au moins 8 personnes et en blessant plusieurs autres, selon l'AFP. Six activistes de la flottille maline, dont la députée européenne Rima Hassan, ont embarqué dans un avion pour la France. Ils ont été arrêtés par la marine israélienne et vont quitter le pays après plus de 72 heures de détention. Les militants sont de nationalité française, allemande, turque, néerlandaise et brésilienne. Plus de 200 manifestants pro-palestiniens ont été arrêtés par les autorités égyptiennes alors qu'ils se dirigeaient vers la bande de Gaza depuis le Caire. Cette vague d'interpellations survient alors qu'Israël avait exhorté l'Égypte hier à empêcher toute provocation pro-palestinienne sur son sol. La police affirme qu'il n'y a aucun survivant du Boeing 787 Dreamliner d'Air India. 204 corps ont été retrouvés sur les 242 passagers et membres d'équipage présents dans l'avion.
Beaucoup Nina Alouche, évidemment on vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très très courte pause et on revient avec notre invité Raphaël Duchemin et mes chroniqueurs sur Radio J.
Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati.
Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous retrouve tout à l'heure avec le Club Imo à 16h05 sur Radio J. Des invités exceptionnels, des analyses éclairées, un tour du monde de l'actualité. C'est cet après-midi, 16h05, et c'est uniquement sur Radio J.
Bonjour, c'est Ilana Ferradian. Vous connaissez ma voix depuis une dizaine d'années maintenant, mais pas forcément mon histoire. Cette histoire, j'ai décidé de vous la raconter sans filtre, à travers mon livre « 7 ans à t'attendre, journal de bord d'une PMA ». Je m'y livre sans tabou, sur mon infertilité, à travers les nombreuses suives que j'ai dû endurer pour avoir ma fille, parce que c'est un sujet qui touche énormément de femmes et de couples dans la communauté. J'espère vous donner de la force et de l'espoir. « 7 ans à t'attendre, journal de bord d'une PMA », aux éditions David Reynarque.
Les cultures juives, ça se défend. Et l'écuge aussi. Soutenir les CUJ, c'est transmettre la richesse des cultures juives, lutter contre l'ignorance et renforcer une vie juive libre, ouverte et accueillante. Les 15 et 16 juin, on compte sur vous pour la première grande campagne d'appel aux dons de les CUJ.
Et votre impact est doublé.
Oui, oui, chaque don compte double.
Double.
Alors rendez-vous les 15 et 16 juin sur allodon.fr/ecuj. Facile, allodon.fr/ecuj.
Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi.
De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, la journaliste Raphaël Duchemin, qui nous présente son ouvrage « Toulon, de l'ombre à la lumière, le Var de 1939 à 1945 », disponible ce lundi 16 juin et publié aux éditions Sylvana Éditorial. Il y a un instant, nous parlions des témoignages très forts dans cet ouvrage. Raphaël Duchemin, j'ai très envie qu'on cite le témoignage de Pierre Assouline qui raconte son père, Marcel Assouline.
Oui, Pierre Assouline a gentiment accepté de m'écrire un texte parce que il n'avait pas forcément le temps effectivement de se prêter au jeu des interviews, mais il raconte et c'est le premier témoignage que j'ai mis dans ce livre. Il raconte effectivement que il a découvert par hasard. Là aussi, l'histoire de son père. Son père ne lui racontait pas ce qui se passait et c'est en feuilletant, justement, dans un rendez-vous littéraire, en feuilletant un livre, qu'il s'est aperçu qu'il y avait une photo avec son père. Il a reconnu son père, cigarette au bec. Et il s'est dit, mais c'est dingue. Il a acheté le livre, il l'a ramené, il a rien dit, il lui a donné. Et là, il a vu son père se plonger à l'intérieur et lire. Et c'est après que le père de Pierre Assouline a accepté de se livrer un petit peu, mais très peu, sur ce qu'il avait vécu. Pas forcément des moments très faciles, d'ailleurs. Hein. Il en parlait de manière assez crue de cette guerre, parce que c'est aussi la réalité de 39-45. Voilà, il y a eu des moments extrêmement difficiles. Et moi, ce qui m'a frappé dans la totalité des témoignages, c'est que bien souvent, les gens se taisaient, les gens n'en parlaient pas, parce qu'une fois que c'était passé, c'était terminé, ça appartenait au passé.
C'est ça. Beaucoup de témoignages d'habitants, de résistants, de soldats, de petits-enfants d'eux. Je suis un peu frappée par deux autres témoignages. Celui de Bruno Falba, libraire, scénariste de bande dessinée, petit-fils de résistants, dont le témoignage figure dans le livre, avec celui de Pierre Mutin. 105 ans, l'un des derniers témoins du sabordage de la flotte à Toulon. Il faisait partie, je crois, du Vautour, un des 90 navires français coulés sur ordre, avec voilà des images qui, 97 ans plus tard, le marquent encore. Il faut lire ce livre pour découvrir ce qu'il y a dedans. L'occasion pour moi de vous demander quelle est l'ambition de cet ouvrage aujourd'hui, Raphaël Duchemin.
L'ambition de cet ouvrage, écoutez, il a... J'aimerais qu'il y ait une suite. J'aimerais qu'il y ait une suite parce que...
Il y a encore beaucoup de témoignages, vous pensez ?
Énormément. Wow. Et si ce livre peut libérer la parole, parce que je pense que aujourd'hui, peut-être encore plus qu'hier, c'est important. Quand on voit ce qui se passe sur la scène internationale, on s'aperçoit de l'importance de l'histoire. Il faut comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir avoir une lecture de ce qu'on vit aujourd'hui. Et donner ces clés-là aux jeunes générations, c'est essentiel. C'est la raison pour laquelle on a fait ce livre en se disant il n'y aura pas un début et une fin. On peut l'ouvrir, on peut picorer un témoignage, passez-moi l'expression, le refermer, y revenir plus tard. Je suis un adulte, je suis un enfant, je peux le faire. J'ai des illustrations, j'ai des photos, c'est relativement court ou un peu plus long. Il y en a un peu pour tout le monde.
Oui.
Donc on peut aller comme ça, choisir. Finalement.
Il faut dire que pour avoir une discussion avec Stéphane Croze dans cette émission, qui est un spécialiste du sujet, qui a fait un film qui est sorti en salle avec Jean-Marie Montali, il me disait qu'il y avait encore 200 000 survivants de la Shoah dans le monde. Donc on s'imagine qu'il en reste bien plus qu'on ne se l'imagine. Bien sûr, cet ouvrage, on se dit qu'il y a une vocation d'apprentissage. Mais aussi, est-ce que pour vous, et vous pourrez bien sûr me répondre à cela en même temps, Raphaël Duchemin, c'était une façon de rendre hommage à votre département du Var.
Alors c'était une façon de rendre hommage à mon département et de remettre effectivement cet épisode de l'histoire dans la grande histoire. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un débarquement qui est passé sous silence et pourtant c'est le débarquement des Français, des troupes françaises, des troupes coloniales, avec des vrais faits d'armes, avec d'ailleurs je crois que les historiens s'accordent là-dessus hein, pour dire que c'est une des plus belles opérations militaires menée et réussie, puisque c'est véritablement cette mâchoire qui a permis de faire reculer l'ennemi et de repousser les troupes allemandes, les troupes nazies, et d'arriver jusqu'en Allemagne et d'arriver de reprendre cette place de vainqueur et de s'asseoir à la table des vainqueurs. Et puis, si vous me le permettez, deux choses. Vous parliez de l'aspect pédagogique, oui, parce que je crois savoir que cet ouvrage, le département va le distribuer dans les collèges, dans les lycées si c'est possible, pour que justement les jeunes s'en saisissent. Et hommage aussi à mes grands-parents, tout simplement, parce que mon grand-père René, du côté maternel, était sur un des sous-marins, le Casabianca, qui ensuite a réussi à fuir. Et malheureusement, je n'en ai jamais parlé avec lui. Et aujourd'hui, je le regrette. Et ma grand-mère, Andrée, du côté de mon père cette fois, était en région parisienne et elle a fait le ravitaillement Paris-Toulouse à vélo. Et c'est pareil, j'en ai toujours entendu parler petite, mais j'étais trop jeune pour m'en préoccuper. Je me dis aujourd'hui, quel dommage de ne pas avoir enregistré ces témoignages, de ne pas les avoir écoutés, de ne pas les avoir fait parler. Ça manque en fait dans mon histoire.
Donc vous nous engagez en vous écoutant en tout cas quelque part à faire la même chose, Raphaël Duchemin. C'est ce qu'on entend au travers de votre témoignage aussi que vous nous faites voilà en cadeau aujourd'hui sur Radio J. Vous parlez de ces héros pour la plupart méconnus qui ont façonné la liberté et je vais dire à une époque. Je vais me permettre de dire cela parce que je vous pose la question suivante. Est-ce que vous pensez que l'on manque de héros et de justes aujourd'hui?
Je pense qu'ils sont là, les héros. Je pense que les justes aussi. Je ne suis pas certaine qu'on ait la capacité de les voir. C'est surtout une histoire de regard, parce que bien souvent, quand le temps passe, on s'aperçoit des choses. Mais quand elles sont sous nos yeux, c'est moins évident. Donc, tout à l'heure, je parlais de distance. Voilà, il suffit de prendre les bonnes lunettes, la bonne distance, et d'accepter de voir les choses d'un peu plus loin parfois que dans le flot des choses et dans l'actualité. Il faut voilà accepter de faire un pas de côté et là on s'aperçoit qu'il y a peut-être des voix qui s'élèvent, des gens qui disent ou qui font des choses et qui méritent peut-être ce titre de héros.
Raphaël Duchemin, est-ce que vous trouvez que aujourd'hui, avec le recul que nous avons sur la Shoah, que nous avons appris de l'histoire, et si la réponse est plutôt mitigé, j'ai envie de vous dire, quelles leçons devrait-on en tirer?
Malheureusement, je ne suis pas certaine qu'on ait appris grand-chose. Quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, évidemment, entre Israël et la bande de Gaza, mais pas seulement, parce que j'ai l'impression que un petit peu partout sur la planète, il y a des voix qui s'élèvent, des populismes, des extrêmes qui apparaissent. Et moi, ce qui me dérange, tout à l'heure, je vous parlais d'optimisme, c'est ces incompréhensions. C'est ces incompréhensions entre les gens. J'aimerais tellement qu'on arrive davantage à se comprendre, à se parler. Et à apprendre de l'histoire et à mettre cette distance avec les choses.
On a parlé de l'histoire, on va se la remémorer ensemble en allant au théâtre.
Au théâtre.
Bonjour David Schweiger.
Bonjour Cyrielle et bonjour Raphaël Duchemin.
Bonjour.
Pour réaliser ma chronique aujourd'hui et pour rentrer en écho avec le livre de témoignages émouvants collationné par Raphaël, j'ai laissé mon esprit librement parcourir l'officiel des spectacles avec en tête ces signifiants attachés à l'histoire du livre de Raphaël. Sud de la France, résistance, nazisme, occupation, zone sud et pourquoi pas rafle, juif. Et ne voilà pas que mon regard a été attiré par un tout nouveau spectacle joué depuis le 2 juin dans un théâtre dont on a déjà parlé dans cette émission. passion, mais dont on ne parle pas assez, le théâtre artistique à Thévin. Un petit théâtre parisien où œuvre Anne-Marie Lazzarini et sa troupe, ou devrais-je plutôt dire son groupe de recherche. Au centre de Paris, dans un quartier populaire, elle propose une programmation axée sur la découverte de grands textes classiques peu connus ou la création d'auteurs contemporains. Et depuis le 2 juin, elle met en scène avec Michel Ouimet une lecture à deux voix du roman de David Fuenquinos consacré à Charlotte Salomon. Un spectacle où l'on retrouve tous les signifiants cités précédemment, résistance, nazisme, occupation, sud de la France, rafle, juif.
Forcément, avec vous David, on a envie de rentrer dans cette histoire.
Eh bien Cyrielle, dans ce spectacle sobrement appelé Charlotte, Anne-Marie Lazzarini propose tout simplement une mise en voix d'un roman qui retrace la vie de Charlotte Salomon, peintre allemande née le 16 avril 1917 et morte à 26 ans au camp d'Auschwitz en 1943. Entre ces dates se tisse une brève existence marquée très tôt par une tragédie familiale, la mort d'une mère dont Charlotte apprendra tardivement qu'elle s'est suicidée, et se dessine un itinéraire systématiquement contraint par la folie nazie. Mais entre ces dates aussi naît une artiste et son œuvre, lumineuse, fulgurante elle aussi. Depuis Berlin, où elle vit ses premières recherches et découvertes plastiques aux Beaux-Arts, jusqu'à Villefranche-sur-Mer, où elle se réfugie alors que de confession juive, elle subit avec sa famille l'exclusion progressive de toutes les sphères de la société allemande. Il ne reste qu'une solution, fuir. Elle sera accueillie dans l'ermitage méditerranéen d'une américaine, Ottilie Moore, qui l'aide, touchée par son talent. Charlotte sait que pour survivre, elle doit peindre son histoire, c'est la seule issue. C'est là qu'elle entreprend la composition d'une œuvre picturale sidérante, vie ou théâtre. Plus d'un millier de gouaches et aquarelles, des centaines de pages de textes, des croquis annotés, des morceaux de musique sur des feuilles de calque, composant une sorte de roman graphique avant l'heure, avec des couleurs créées seulement à partir du blanc, du rouge, du vermillon, du jaune moyen et du bleu outre-mer. Gardez-les bien, c'est toute ma vie, dira-t-elle à l'ami auquel elle les confie. Peu de temps avant son arrestation.
Un mot sur la mise en scène, David.
Oui, Cyrielle, car comme dans les autres spectacles que j'avais déjà pu voir au théâtre artistique à Thévin, notamment un excellent spectacle sur les Lebensborn dont j'avais parlé ici, les choix des équipes travaillant avec Anne-Marie Lazzarini, et les choix de la metteuse en scène elle-même, sont d'une très grande sobriété, d'une belle simplicité, n'empêchant pas une esthétique soignée. Pour cette mise en voix, la scène est tout emplie d'étoiles de Charlotte Salomon. On découvre d'un œil nécessairement lointain son talent pour les couleurs, les gouaches, l'aquarelle, le fusain. Les acteurs sont pour ainsi dire tout entourés, tout nimbé au milieu de ces toiles, de la présence si éphémère de Charlotte, mais si géniale et si décisive. Ces acteurs qui livrent à la main rendent avec justesse la vie de l'artiste en restituant les mots de Fuenquinos, parti sur ses traces.
En conclusion,
je dirais à nos auditeurs de toujours tendre l'oreille quand ils entendent parler d'un spectacle au théâtre artistique à Thévin, car les représentations, aussi bien que les nombreux débats et bords de scène qui y sont organisés après les spectacles, sont de belle qualité. Comme l'est le spectacle touchant consacré à Charlotte Salomon, à laquelle donne voix la plume sensible et inspirée de David Fuenquinos. Allez donc à sa découverte et celle de la sublime et tragique vie de Charlotte pour bien démarrer l'été, commençant par un spectacle inspiré.
Et merci beaucoup David Schweiger, ça nous a donné envie d'y aller. Je rappelle que Charlotte, d'après David Fuenquinos, s'est mise en scène par Anne-Marie Lazzarini au Théâtre Artistique à Thévin, 45 bis Richard Lenoir, Paris 11e. Cela se joue du mardi au dimanche à partir du 2 juin, donc cela a commencé, et jusqu'en septembre. Merci beaucoup. Merci David. Allez, tout de suite, c'est l'édito de Madar.
Le billet du jour.
Et c'est l'heure de retrouver Samuel Madar, plus connu sous le nom de l'édito de Madar sur les réseaux sociaux. Bonjour Samuel.
Bonjour Cyrielle, bonjour Raphaël Duchemin.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous souhaitez vous adresser à tous les Français qui nous écoutent.
La vraie question aujourd'hui, ce n'est plus de savoir si l'antisémitisme est en train de tuer la France. C'est de savoir quand les Français vont réagir. C'est quoi votre ligne rouge? Celle qui vous fera dire « là c'est trop ». Parce qu'honnêtement, on finit par désespérer. Que vous faut-il ? En 2006, Ilan Halimi, enlevé, torturé, assassiné, parce que juif. Pas de sursaut. En 2012, Toulouse, une école juive, des enfants abattus à bout portant. Rien. 2015, Hypercacher, des Français juifs assassinés parce qu'ils faisaient leurs courses avant Shabbat. Toujours pas de sursaut. 2017, Sarah Halimi, battue à mort, défenestrée et pas de justice parce que son assassin avait fumé. Rien. Rien d'assez fort pour déclencher un réveil national, y compris du président de la République. Et puis, les massacres du 7 octobre 2023. Et la haine qui déborde jusque chez nous. Avec une explosion des actes antisémites en France, un pic historique depuis la Shoah. Et là encore, on attend. Les mots sont forts, mais les actes sont faibles, voire inexistants. Seule la peur, elle, est bien réelle. Alors quelle est votre ligne rouge? Une fillette juive de 12 ans, violée à Courbevoie? Un rabbin agressé deux fois en une semaine? Des synagogues incendiées, le mémorial de la Shoah profané? Deux fois des femmes juives évincées, des manifestations dites féministes? Des étudiants empêchés d'aller en cours, encerclés dans les facs? Un homme frappé dans le métro parce qu'il portait une kippa? Je pourrais continuer la liste longtemps. Très longtemps. Mais à quoi bon? Avez-vous simplement renoncé à être choqué? Parce que c'est bien ça le vrai drame. Tout ça est en train de devenir normal. Un climat, un bruit de fond, un quotidien toxique auquel vous vous êtes habitué. Mais pendant ce temps-là, des familles partent et elles ne font pas de bruit. Elles ne manifestent pas. Elles cherchent une école, un visa, une porte de sortie. Elles ne partent pas pour une vie meilleure. Elles partent pour survivre et protéger leur famille. Parce que personne d'autre ne le fait. Et personne ne leur pose même la question parce que tout le monde connaît la réponse. Alors je vais le dire clairement, ce n'est plus une question juive. C'est une question française. Un pays où les juifs ont peur, c'est un pays qui a perdu sa mémoire et qui commence à perdre son âme. Permettez-moi donc de vous poser la question autrement. Avez-vous seulement une ligne rouge? Parce que si une fillette violée ne suffit pas, si les synagogues attaquées ne suffisent pas, si des familles qui fuient la France ne suffisent pas non plus, alors il n'y a plus de ligne rouge. Il ne reste qu'une ligne de fuite. Et pendant que vous détournez les yeux, elle est déjà franchie. À vous d'agir.
Merci beaucoup, l'édito de Madar, pour ce texte très poignant que l'on retrouvera évidemment sur nos réseaux sociaux, sur Radio J, sur Instagram, mais également sur les vôtres, l'édito de Madar. Forcément, je vous regarde, Raphaël Duchemin, peut-être une émotion.
Oui, parce que tout est dit, en fait, dans cet édito, et en vous écoutant, je repensais à ces personnes qui me racontaient comment elles avaient caché des juifs pendant la guerre, comment elles avaient essayé de faire ce travail-là de protection. Et je me dis, mais voilà, une fois de plus, décidément, qu'est-ce qu'on attend? On comprend quoi de l'histoire? Qu'est-ce qu'on apprend de l'histoire?
Pas grand-chose, malheureusement.
Merci beaucoup, Raphaël Duchemin, et merci beaucoup à Samuel Madar. Tout de suite, c'est l'introspection sur Radio J.
L'introspection.
Oscar Wilde a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant ». Essayons de faire cela maintenant avec quelques phrases, Raphaël Duchemin, pour recueillir un sentiment, une anecdote ou tout au mieux une émotion. La première, pensez-vous que nous avons tort d'avoir raison trop tôt?
Oui. Oui. Oui, je pourrais délayer pendant des heures, donc c'est un oui massif.
Est-ce que vous pensez que le savoir, c'est le pouvoir?
Oh oui.
Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur.
Le courage, il a de multiples formes. C'est parfois se taire, c'est parfois crier les choses, c'est parfois oser, c'est parfois faire semblant de ne pas comprendre, être plus intelligent que l'autre. C'est... Ouais, le courage, ça peut prendre différentes formes.
Celui qui accepte le mal sans lutter contre lui, coopère avec lui.
Clairement.
Je pense à cette phrase de Charles de Gaulle. que vous avez écrite dans votre livre. Ceux qui voudraient croire ou faire croire que la liberté, la valeur, la grandeur pourraient se recréer sous la loi de l'ennemi sont des inconscients ou des lâches. Le devoir est simple et dur. Il faut combattre.
Oui, il faut combattre. À chacun de trouver sa manière de combattre. Mais je crois qu'on est tous responsables. On a tous notre part à faire dans la grande ou dans la petite histoire. On a toutes nos petites victoires à apporter. Il faut pas se dire « je compte sur le voisin » ou « quelqu'un d'autre le fera mieux que moi ». Non, on est tous ici et maintenant et on a tous notre part à prendre.
Tout de suite, Raphaël Duchemin, c'est votre portrait sur Radio J.
Le portrait psychologique, Radio J.
Radio J. Nous avons trois belles, jolies minutes avec vous, Christian Richaume. Bonjour Christian.
Bonjour Sylvie. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Vous nous avez donné trois mots, franche, varoise et optimiste. Alors pour passer de l'ombre à la lumière, du flou à la netteté, vous révélez les âmes comme on révèle une photographie. Alors j'ai choisi de faire votre portrait comme on développe une photo argentique, en relevant chaque couche, chaque nuance, chaque zone d'ombre qui donne tout son sens à la lumière. Le premier acte, c'est le négatif. Parce que l'on ne voit pas ce qui est déjà là. On est fasciné par l'interstice de l'histoire, par les endroits qu'on ne regarde pas, par les vies anonymes, par les souvenirs tus. Comme un négatif, il faut un œil sensible pour deviner les formes, lire l'émotion dans le flou, capter l'écho du silence. Être discrète, mais capter ce que les autres ne disent pas. Cela vient peut-être de votre enfance, de cette grande table, de cette fille unique qui est avec une grande famille, pied-noir italienne, cette petite fille qui est ouverte, qui a besoin de communiquer, qui a besoin de comprendre les autres et qui a vécu des moments mélancoliques. Alors elle se rapproche, elle écoute et elle développe une empathie d'éveil, une attention à l'invisible. Ensuite, après le négatif, on passe à la chambre noire. Parce que c'est le lieu intime où les récits prennent forme. Votre micro devient un confident, votre parole une matière précieuse. Et puis vous êtes dans l'écoute sincère, dans le respect de l'émotion, dans le sens du cadre non intrusif. Un espace de confiance, des témoignages qui se développent sans crainte du jugement. Racontez à hauteur d'homme. Et puis, comme un psy, vous écoutez entre les lignes. Vous donnez du temps au récit, accueillir les émotions, vous ne forcez pas l'image, vous l'attendez. La mémoire, c'est comme la photo. Elle a besoin d'ombre pour se révéler. Alors vous transformez les plateaux en oreiller émotionnel. On s'y pose, on s'y dépose. Et puis ensuite, il y a le révélateur. C'est ce qui fait surgir l'image humaine. Le rôle du journalisme, c'est un passeuse d'humanité. Vous faites surgir les visages, les histoires, les impacts émotionnels sur l'autre. Un rapport à la vérité. Et puis, vous avez un positionnement éthique, votre côté franche, que l'on voit ici. Avec vous, la parole des résistants n'est pas anodine, c'est une braise. Vous soufflez doucement avec tendresse, pour que ça devienne un album photo de courage vivant. Et enfin, on a le tirage final, parce que vous ne faites pas que restituer, vous reliez les gens, notre présent, pour que ça soit une boussole pour notre avenir. Et puis pour qu'il y ait cet esprit de transmission, cet esprit varoise, cette conscience citoyenne, cette foi en la pédagogie du témoignage. Alors pour finir, je veux dire que vous êtes une femme sans filtre, avec un cadre, celui de la justesse, de l'émotion vraie, du respect et de l'optimisme. Vous ne contentez pas de vous développer les images, vous déployez les âmes. Et vous apprenez que le passé, il ne faut pas l'oublier. Le tout, sans prendre la lumière, et en nous orientant sur ce qui doit être vu.
Merci beaucoup, Christian Richaume, pour ce très beau portrait. Notre psychanalyste, auteur et thérapeute à Paris, que l'on retrouve tous les jeudis sur Radio J.
Radio J.
Cyril Sarah-Cohen.
Merci beaucoup, Raphaël Duchemin, d'être venu nous voir pour votre ouvrage « Tout long de l'ombre à la lumière, le Var de 39 à 45 » aux éditions Sylvana Éditorial dès lundi 16 juin. Merci d'être venu nous voir sur Radio J.
Merci à vous de m'avoir reçu.
Merci beaucoup et je donne rendez-vous à nos auditeurs lundi 15h avec le chef Grégory Cohen pour son livre « Yella » aux éditions Le Duc. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis à lundi.
Bonjour, c'est Lise Gutmann.
Le 10-11, Lise Gutmann.
Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté.
Radio J.
la 20e édition du Festival des cultures juives. Concerts, rencontres, théâtre, expo, du 15 au 30 juin, découvrez un programme inédit au cœur de Paris. Pour sa soirée d'ouverture, le contrebassiste Avishai Cohen vous donne rendez-vous dimanche 15 juin à 19h dans le cadre intime du Théâtre du Rond-Point pour vivre une expérience musicale inoubliable. Détails et réservations sur festivaldesculturesjuives.org.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio J, c'est Shirelle. Je viens le 23 juin au Palais des Glaces pour chanter Yen Tel and Me, un spectacle qui parle de femmes, qui parle d'Israël, qui parle d'identité. Et j'espère que vous viendrez nombreux pour l'association Netzar et Tzedek qui aide les enfants en Israël.
Réservation netzar1948.com.
Netzar1948.com et 0603 52 88 88. Shirelle. Sur la scène du Palais des Glaces le 23 juin.
Les cultures juives, ça se défend. Et les CUJ aussi. Soutenir les CUJ, c'est transmettre la richesse des cultures juives, lutter contre l'ignorance et renforcer une vie juive libre, ouverte et accueillante. Les 15 et 16 juin, on compte sur vous pour la première grande campagne d'appel aux dons de les CUJ.
Et votre impact est doublé.
Oui, oui, chaque don compte